Bonsoir et bienvenue sur Fréquence Mistral 99.3 dans cette émission Quartier Libre où je reçois avec plaisir Erwan Leroy et Sylvie Beaujard. Bonsoir.
Bonsoir. Bonsoir.
Alors vous êtes là bien sûr pour parler de votre activité et puis par les événements qui vont venir très prochainement puisque c'est déjà ce jeudi 21 mars. Vous faites partie de la Mobile Compagnie.
Voilà, c'est ça.
Alors on va commencer par vous, Erwan Leroy. Alors vous avez aussi d'autres activités. Alors par quoi on commence?
Par rapport à la Mobile Compagnie, en fait, je suis le directeur artistique de cette structure qui existe depuis à peu près 2 ans maintenant et qui se spécialise en fait dans la lecture à voix haute, lecture spectacle sur divers supports, que ce soit des textes d'œuvres de fiction ou aussi beaucoup de documents d'archives. Donc on répond à des demandes des archives départementales ou d'autres associations de patrimoine ou d'histoire, ou à des diffuseurs pour mettre en place ces différentes lectures.
Alors vous travaillez sur le thème des expositions du moment. Vous dites que ça fait 2 ans que vous suivez les expositions qui ont lieu aux archives. Et là, actuellement, c'est Marcel et Céric Pose. Ce sont ces photographies qui sont exposées. Mais vous allez faire des lectures en fonction des 2 ans écoulés, d'expositions écoulées.
Voilà, c'est-à-dire donc depuis 2 ans, dès que les archives départementales ont une exposition, en fait, ils organisent autour de cette exposition des cycles de lecture et ils nous demandent, ils demandent à la Mobile Compagnie de mettre en œuvre ces lectures. Comme en effet, comme vous disiez, l'exposition actuelle, ce sont des photos. Donc, de fait, il n'y a pas grand-chose à lire, il y a beaucoup à voir, c'est-à-dire une très belle exposition. Donc on a décidé, comme un accord avec les archives départementales, de reprendre un certain nombre de lectures que nous avons fait depuis 2 ans autour des expositions passées, en fait. Donc du coup, on en reprend 4 là, du mois de mars jusqu'au mois de juin. Mais tout de même, il y aura quand même une lecture inédite puisqu'il y a une deuxième exposition en ce moment aux archives départementales qui est sur Vichy et les Juifs. Mmh. Et donc à cette occasion, le directeur, M. Labadie, nous a demandé de faire une lecture autour des documents que constitue cette exposition.
Donc ça va être aussi en rapport avec Vichy et les Juifs, c'est
oui,
ça ?
Oui, pour cette lecture-là, ça sera vraiment à partir des documents qu'il y a dans cette exposition. Mm-hmm. Voilà. Après, c'est vrai que les autres, c'est puisqu'on en fait à peu près, il y a entre 10 et 12 lectures par an. Il y a toujours entre 3 et 4 lectures différentes par exposition. Et en fait, c'est vrai qu'on a décidé de prendre ce qui nous semble, nous, en tout cas, les lectures les plus marquantes, les plus vivantes, et qui souvent, d'ailleurs, ont à voir vraiment plus précisément avec des gens qui ont vraiment passé une partie de leur vie ou dont on retrace une partie de leur vie dans le département, en fait. Donc, ils sont, on pourrait dire, un petit peu moins administratifs que d'autres lectures qui ont lieu.
Donc, vous sortez de 4 heures de répétition, c'est pas mal. Vous êtes combien dans la...
On s'est un peu chauffé la voix.
Vous êtes combien à participer à ces lectures?
Alors, en fait, c'est très variable, puisque ça dépend en effet des lectures. Donc, généralement, c'est une ou deux voix. Et après, il y a à peu près entre 5 et 6 lecteurs qui forment un peu l'équipe de lecteurs de la Mobile Compagnie. Et suivant les disponibilités de chacun, mais aussi le thème des lectures, à ce moment-là, je demande à telle ou telle personne de venir faire cette lecture.
Alors, on va peut-être présenter Sylvie Beaujard, qui est avec nous ce soir.
Alors, moi, je suis donc comédienne pour la Mobile Compagnie. Je fais les lectures depuis maintenant plus de 2 ans. Voilà, et dans le 04, j'anime aussi des ateliers de théâtre, entre autres au Centre culturel René Char, au lycée Alexandra Davinel, au collège Camille Raymond, etc. etc.
Voilà. C'est où ce collège Camille Raymond ?
Château-Arnoux.
Ah, Château-Arnoux, d'accord.
Voilà.
Et donc, vous faites partie de l'aventure pour cette lecture qui va venir ce 21 mars ?
Voilà, 21 mars, puis pour les 4 autres qui suivent. Hein, Erwan,
en fait, Sylvie, oui.
Tu confirmes là.
Sylvie est quasiment présente sur toutes les lectures. Mm-hmm. Voilà, c'est une des plus fidèles comédiennes de la Mobile Compagnie.
Oui.
C'est aussi parce qu'il y a Moi, j'essaye toujours, en tout cas, dans les directions de lecture, qu'il y ait deux voix assez différentes. Donc, en effet, de manière naturelle, souvent, il y a un garçon et une fille, en fait, pour que la voix soit vraiment différente. Et c'est vrai que par rapport aux différents artistes sur le territoire que je connais ou avec qui j'ai pu travailler, parce qu'il y en a plein d'autres que je ne connais pas, avec qui je n'ai pas encore travaillé. C'est vrai que Sylvie est la plus présente. Il faut dire aussi que pour un comédien, le travail de lecture, c'est un travail assez particulier, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des comédiens que je trouve très très bien en spectacle, mais avec qui j'aurais pas tellement envie de travailler en lecture, et inversement d'ailleurs. Et après, il y en a qui sont d'ailleurs très doués pour les deux, dont fait partie Sylvie, bien sûr.
Voilà. Il faut le dire, puisqu'elle est là. Hein.
Bah oui, c'est pour ça que...
Et que j'entends. J'écoute, pardon.
Mais c'est vrai, comme c'est un travail assez spécifique, ça demande aussi une... C'est autre chose que de travailler un spectacle.
Oui, il n'y a pas vraiment de mise en scène. Vous êtes assez statique. Il n'y a pas de jeu de... Il faut rester assez neutre.
Oui, c'est-à-dire, enfin, en tout cas, moi, je trouve que c'est toute la difficulté et l'intérêt à la fois du travail de lecture. C'est que déjà, souvent, ce ne sont pas des textes de théâtre. Donc, mm-hmm. c'est pas des textes qui étaient prévus pour être lus à voix haute. Et en plus, enfin, notamment pour les archives, il s'agit également de ne pas dénaturer le texte. Mais en même temps, il faut quand même rendre cette lecture vivante pour que les gens qui viennent, en effet, se rendent compte que les documents d'archives, ça peut être vivant. Donc c'est vraiment trouver le bon endroit où à la fois on entend vraiment le texte, on entend ce qui est dit, on entend cette langue aussi particulière. Et en même temps, il faut quand même avoir suffisamment d'énergie, mettre un petit peu de jeu de comédien pour que tout ça soit vivant. D'ailleurs, quand le directeur des archives avait fait appel à nous, une de ses premières demandes, en fait, c'était vraiment de rendre les documents vivants. Pas de faire un cours d'histoire, mais vraiment de rendre les documents vivants. Et c'est vraiment dans ce sens-là que nous, on essaye de travailler.
Alors vous, ça fait 2 ans que vous travaillez avec les archives, mais depuis au moins 10 ans, je crois que ça a lieu, les lectures d'archives.
Du coup, moi je crois déjà que ça doit même faire une douzaine d'années, ouais, je pense, ouais. Parce que c'était Madame Hirsch, la précédente directrice, qui avait mis ça en place. Et je crois que quand elle est partie du poste de Digne, ça faisait une bonne dizaine d'années qu'elle était là. Donc, à mon avis, oui, ça faisait...
C'est vraiment une bonne idée pour rendre vivant, justement. C'est vrai que les archives, on n'a pas tous envie d'aller fouiller, de passer du temps à explorer. Voilà.
C'est vrai qu'on a souvent une image assez austère de l'archive. Alors, c'est vrai qu'il faut être honnête, hein, certaines le sont terriblement, mais d'autres pas du tout. Au contraire, on est même d'ailleurs souvent surpris de ce qu'il peut y avoir dans ces documents, de l'énergie qu'ils peuvent avoir, de la vivacité qu'ils comportent. Et puis aussi, moi, ce que je trouve très intéressant, c'est qu'il y a une... Alors surtout pour les archives du fin du 19e, il y a une langue, une façon d'écrire les choses, et donc pour nous de le dire, qui est de moins en moins présente dans tout ce qui est administration. On est maintenant dans une langue beaucoup plus synthétique, efficace, en effet. Donc tant mieux, hein, pourquoi pas. Mais c'est vrai que là, du coup, on retrouve... une richesse comme ça qu'on est vraiment surpris d'entendre, puisqu'elle vient, pourtant elle fait partie de documents administratifs.
On va faire une petite pause musicale, et puis après, si vous voulez, enchaîner avec quelques lectures, ou parler d'autres.
Comme vous
voulez. Oui, allez, on fait dans cet ordre-là.
Très bien. Hein,
un petit peu de musique et on se retrouve juste après.
That I'm calling for divine powers to release me. How you change your mind like you change your clothes is a mystery. But I won't be afraid of the day when God take this love on away. Been called
Nos deux invités aujourd'hui qui sont Erwan Leroy et Sylvie Beaujard, tous les deux comédiens et acteurs de théâtre. Et nous parlons de La Mobile Compagnie, puisqu'il va y avoir des lectures à la salle des fêtes de Thouars le jeudi 21 mars, avec des lectures d'archives.
Oui, voilà.
Alors, vous allez nous dire les deux extraits que vous allez nous lire.
Alors, la lecture du 21 mars, en fait, c'est une lecture qui s'appelle « Identité multiple, un voleur passe ». Une lecture qui vient de l'exposition qui s'appelait « Vos papiers SVP ». Et dans cette lecture, en fait, c'est l'histoire d'un, on pourrait dire, d'un jeune délinquant qui a 24-25 ans et qui, avec un complice, rentre par effraction dans des maisons et fait des sortes de vols à la tire, en fait. Et la spécificité de cette histoire, c'est que, en fait, pendant quelques semaines, il essaye d'embrouiller le procureur de la République pour qu'on ne sache pas qui il est exactement. Puisque tant qu'on ne connaît pas son identité, on ne peut pas le condamner, en fait. Mmh. Donc il y a un peu une sorte de jeu de chat et de souris. Et en fait, tout ça se fait à l'époque, puisque c'est à la fin du 19e, tout début 20e, au moment où, en fait, on met en place tous les systèmes de reconnaissance comme... les mesures anthropométriques, les photos, les empreintes.
Les empreintes, oui.
Et donc là, ce qu'on a décidé comme ça de vous lire, c'est deux courts extraits des documents qui seront lus le 21 mars et qui sont en fait des procès-verbaux d'interrogatoire de cette personne.
Alors on vous écoute. C'est un texte que vous allez lire à deux ?
Tout à fait.
Alors on vous écoute.
Extrait du procès-verbal d'interrogatoire dudit de Chaumaret du 12 septembre 1904. Voudriez-vous faire connaître d'une façon exacte votre état civil ?
Oui. Je me nomme le roi de Chaumaret Antoine, fils de feu Baptistin et de Rose Bachy, né à Beaune, Algérie, en janvier 1883.
Avez-vous subi des condamnations ?
J'ai subi deux condamnations. Une première il y a 2 ans environ par le tribunal correctionnel d'Aix, à 1 an d'emprisonnement, pour vagabondage spécial et violence et voie de fait. Et la seconde, dans le courant de la présente année, à 3 mois d'emprisonnement pour vagabondage spécial par le tribunal correctionnel de Nîmes.
Pourriez-vous dire comment vous vous êtes rencontré avec Rougier ?
Lorsque j'ai été libéré vers la fin juillet 1904 de la prison de Nîmes, où j'avais purgé une condamnation de 3 mois d'emprisonnement, j'étais muni d'un billet de chemin de fer à destination de Chalon-sur-Saône, où je devais trouver soi-disant mon beau-frère et m'engager. J'avais une somme totale de 110 francs, 100 francs que je n'avais pas remis à l'administration de la prison, et 10 francs qui m'avaient été remis par le gardien-chef. À la première station, je m'arrêtais et je me dirigeais vers Gap où je comptais faire les moissons. Je ne réussis pas à m'embaucher. Je rencontrai dans cette ville Rougier, dont j'avais fait la connaissance il y a 3 ans environ à Marseille, et nous nous associâmes pour cueillir sur les montagnes des plantes méridionales. J'en ai fait 2 expéditions à un sieur Rambaud demeurant près du quartier du Chapeau Rouge à Toulon, l'une à Sisteron et l'autre à Gap, pour une somme de 60 francs environ.
Vous avez reconnu déjà le vol commis le 28 juillet 1904 au préjudice de sieur Roland Eugène à Montclar. Expliquez-vous de nouveau au sujet de ce vol.
Ce vol a été commis uniquement par moi. Je me trouvais à 300 mètres environ de la maison de campagne de Roland, herborisant avec Rougier. lorsque j'ai dit à ce dernier de m'attendre un moment. Je me suis caché dans un buisson, attendant que les militaires qui se trouvaient dans cette habitation fussent partis. Lorsque j'ai compris qu'il n'y avait plus personne, je me suis approché et, à l'aide d'une dent de herse que j'avais trouvée la veille dans un champ au hameau de Saint-Jean, j'ai enfoncé la porte de la cuisine. Étant dans l'habitation, j'ai fait des fouilles complètes, visitant tous les meubles et jetant le linge par terre. J'ai pris dans une valise un porte-monnaie qui contenait 2 pièces de 20 francs et 1 de 10. Et dans un coffret d'une autre chambre, 2 porte-monnaies qui contenaient également de l'argent. La somme totale que j'ai soustraite s'élève à 100 francs environ. Je me suis emparé en outre de 2 mouchoirs qui étaient dans une armoire placée dans la chambre où était le coffret. Je les ai donnés à Rougier. Celui-ci, je vous le répète, n'a participé en rien au vol.
Il est difficile de croire que Rougier n'a pas coopéré au vol. Il a dû tout au moins faire le guet. Du reste, il a dû être renseigné par vous sur ce que vous alliez accomplir et il a profité du produit du vol.
Je ne lui ai pas dit que j'avais volé. J'ai soldé les dépenses que nous avons faites ensuite, mais j'avais de l'argent qui ne provenait pas du vol.
Lorsque vous avez été arrêté 2 jours plus tard, le 30 juillet, vous aviez en votre possession seulement 1 franc 30 centimes et Rougier n'avait que 2 francs 20 centimes. Qu'était devenu l'argent volé à Roland ?
Au moment où nous allions être arrêtés, j'avais pu cacher l'argent provenant du vol, l'argent m'appartenant et divers objets compromettants. Je ne puis pas indiquer la cachette, ne voulant pas compromettre d'autres personnes.
Vous avez déclaré être l'auteur d'un vol commis le 3 juillet 1904 à Puy-Michel au préjudice de Sieur Comte Séraphin.
Je m'en suis déclaré l'auteur, mais je n'y ai pas participé, étant à ce moment-là en prison. J'ai dit que j'étais parmi les 2 voleurs afin d'exonérer les véritables malfaiteurs.
Extrait du procès-verbal d'interrogatoire du dit de Chaumaret du 29 octobre 1904. Quel est votre véritable nom ?
Je m'appelle de Chaumaret Georges. Je suis né à Toulon. Je suis un fils naturel. J'ai habité durant 5 ans, de 1885 à 1890, à Bordeaux, d'abord quai Kéris, et ensuite place du 14 juillet au Bouscat, je ne me rappelle pas à quel numéro. Je demeurais avec mon père adoptif, Castagnier François, qui vit tout seul, et qui est âgé actuellement d'une 50aine d'années. Je n'allais pas à l'école, étant instruit par mon père adoptif. Celui-ci vit de ses petits revenus. En 1890, nous vîmes ensemble habiter Montpellier, pendant 5 à 6 mois, je ne me souviens pas dans quelle rue. Là, je m'éloignais de Castagnier et je vins à Marseille avec une femme, artiste mime, qui m'a nourri jusqu'à l'âge de 17 ans. Je ne veux pas faire connaître son nom. Je n'ai jamais appris de métier et je n'ai jamais travaillé. Je ne peux pas dire où je demeurais en dernier lieu à Marseille. Je connais Rougier depuis 2 ans environ, il n'y a que 6 mois que je le connais d'une façon intime.
Pardon. On vient d'entendre donc 2 extraits de lecture que vous allez donner à Thouars, à la salle des fêtes de Thouars, le jeudi 21 mars. Il y a encore 2 autres extraits que vous vouliez lire ou on en fait une pause ? Non ?
Non, là, on a tout lu, je crois.
On a tout lu. Vous avez tout lu. On fait une pause musicale et on se retrouve juste après pour parler de vous, Erwan Leroy, et du théâtre, puisque vous êtes également professeur de théâtre. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit.
On peut dire comme ça.
On peut dire comme ça. Allez, on écoute un peu de musique.
Thank you.
Il est 17h27 sur Fréquence Mistral 99.3 et nous sommes toujours en compagnie de nos deux invités, Sylvie Beaujard et Erwan Leroy, dont nous venons d'entendre quelques lectures, quelques extraits de lectures qui auront lieu ce jeudi 21 mars à la salle des fêtes de Thoar à 19h. À quelle heure ?
À 19h.
À 19h et c'est totalement gratuit. Alors Erwan Leroy, vous êtes... Vous avez plusieurs cornes à votre arc, n'est-ce pas ?
Oui.
Donc, vous intervenez dans le milieu du théâtre, bien sûr. Alors, est-ce qu'il y a plusieurs compagnies ? Quel est votre...
Moi, est-ce que je travaille pour plusieurs compagnies ?
Vous, qu'est-ce que vous faites ? Quels sont les rendez-vous que vous pourriez donner à nos auditeurs, éventuellement ?
En effet, dans le département, hormis en effet le côté un peu spectacle ou lecture qu'on met en place avec la mobile compagnie, moi, j'interviens aussi en faisant des ateliers théâtre, en fait. Donc il y a plusieurs ateliers, il y a ceux vraiment de la mobile compagnie. Par exemple, il y a un atelier adulte depuis une dizaine d'années maintenant, tous les lundis soirs au village de Gobert. Et puis aussi, il y a ce qu'on fait là depuis la fin de l'année dernière, tous les mois ou un mois sur deux, on organise un week-end qui sont des stages de lecture, en fait, où absolument... tout le monde peut venir. Enfin, ça ne s'adresse pas que à des gens qui ont déjà une pratique théâtrale, de la même manière que les lectures d'archives qu'on fait ne s'adressent pas qu'à un public de théâtre, mais vraiment à tout public. Là, les stages de lecture, c'est la même chose, c'est-à-dire pendant une ou deux journées, en fait, je propose aux gens de travailler sur la lecture à voix haute, soit à partir de documents d'archives qui sont lus dans nos propres lectures, soit à partir d'œuvres de fiction, voire de recueils de poésie également. Et puis il y a aussi en milieu scolaire, puisque le Conseil général finance depuis quelques années maintenant ce qui s'appelle l'opération théâtre au collège. Et là, cette année, la mobile compagnie, nous intervenons au collège de Fort-Calquier et au collège de Seine. Et puis, comme ça ne suffit pas, et je crois que j'aime beaucoup ça, depuis quelques années aussi, le mercredi, j'ai un grand plaisir à initier les enfants de 8 à 11 ans au théâtre, au centre culturel René Char à Digne-les-Bains. Voilà, là, je crois que j'ai fait à peu près le tour.
Donc, beaucoup d'activités. Alors, on imagine Enfin, moi, ça me paraît toujours curieux d'avoir des stages de lecture. Comment ça se passe par rapport au théâtre? J'imagine qu'on retrouve des exercices un peu similaires. Est-ce qu'on apprend à respirer? Qu'est-ce qu'on peut trouver dans un stage de lecture?
Alors, il y a un petit peu des exercices, en effet, mais qui ne sont pas vraiment des exercices techniques. Qui sont plus des exercices pour un peu se délier la langue, se désinhiber la bouche et puis envoyer un petit peu le flow, comme on dit aussi. Et après, bah, c'est tout simplement entre guillemets, un travail qui se fait surtout personne par personne, en fait, parce que c'est un peu difficile, contrairement en effet au théâtre où il y a des scènes avec plusieurs personnages. Dans la lecture, c'est un peu difficile de lire moi je trouve, en tout cas pour travailler comme ça en stage, de lire un document ou un extrait de roman à plusieurs. Donc la personne lit le texte et puis ensemble on va essayer de trouver de travailler sur le rythme du texte, donc peut-être en effet là ça rejoint le souffle, sur le sens du texte et puis sur quelle couleur on a envie de donner à ce texte-là pour que le public potentiel après puisse entendre ce texte. Mais c'est vrai que dès que je travaille un texte, en fait ce que j'ai envie, c'est que le public l'entende comme moi je l'ai entendu dans ma tête quand je l'ai lu. En fait, voilà. Alors, c'est peut-être pas forcément le meilleur choix, en tout cas, de couleur et de parti pris. Mais c'est vraiment comme ça que je travaille. Donc, c'est un peu ce que j'essaye de faire avec les stagiaires de ces week-ends-là, c'est-à-dire, eux, qu'est-ce qu'ils ressentent de ce texte? Qu'est-ce qu'ils ont envie de dire à travers ce texte, en fait? Donc, du coup, c'est vrai qu'on travaille beaucoup sur le respect de la ponctuation, le respect de la langue, puisque c'est vrai qu'en plus, en français, la chance qu'on a, c'est que vraiment la ponctuation, c'est vraiment la respiration de la langue. Donc, souvent, c'est également le souffle de l'auteur. Et après, en effet, on travaille pour ajouter quelques couleurs, quelques points de vue, qui fait que, généralement, sur un texte qui va faire 10, 15, 20 lignes, déjà en entre la première lecture et puis après une demi-heure du travail, ça n'a vraiment plus rien à voir, en fait. Et c'est vrai que ça s'adresse vraiment à tout le monde, parce que même les gens qui n'ont pas, comme je disais tout à l'heure, qui n'ont pas de pratique théâtrale ou qui n'ont pas l'habitude de lire devant des gens à voix haute, petit à petit, les choses se font. Ce que j'essaye aussi de faire, c'est que c'est aussi des stages vraiment avec un nombre de participants très limité, c'est-à-dire que c'est 5-6 personnes maximum. On travaille en petit comité, entre nous, tranquillement. Et surtout, comme ça laisse le temps à chacun d'avoir un vrai moment de travail. Ce que j'essaye en plus, pour que les gens travaillent sur deux choses très différentes, chaque personne, en fait, travaille et sur un document d'archives et sur un extrait de roman, puisque en effet, suivant l'écriture, le travail n'est pas le même. Et là, du coup, les genres sont tellement différents que ça permet vraiment aux gens de se rendre compte que la précision du travail se fait vraiment par rapport au style de l'écriture qu'il y a dans le texte.
Alors, j'imagine que ça peut s'adresser à tout public, c'est-à-dire que quelqu'un qui aurait besoin, vous travaillez aussi par rapport au trac, j'imagine, non? Alors, quel est le public qui peut venir à vos stages? Est-ce que ça peut aussi s'adresser à un chanteur traqueur?
Bien
ou
sûr.
Un journaliste qui doit apprendre à être plus neutre quand il annonce? Parce que c'est vrai qu'on peut. Il y a mille façons de dire un texte, et en fonction du côté dramatique, il ne faut peut-être pas le prendre sur un ton un peu léger ou avoir une voix qui rit. Qui sourit en fonction de ce qu'on lit, c'est aussi un travail à...
C'est exactement ça. En fait, c'est un travail de précision. C'est-à-dire qu'on se rend compte que quand on commence à lire, même si on a envie que tout d'un coup le ton soit très sérieux, quand on est en lecture, malgré nous, on a une façon de lire automatique qui se met en place. Et d'ailleurs, souvent, on dit qu'on est plus dans la musicalité du texte que dans le texte en lui-même. Donc c'est vrai que dès qu'on commence à lire, tout ça ressort, tous les automatismes ressortent. Ouais. Et c'est vrai que c'est la première chose à enlever, mais en fait, ça s'en va très très vite. Puisque au lieu de lire de manière un petit peu automatique, on va se mettre à lire réellement le sens, ce qui est dit dans le texte, et à ce moment-là, tous les automatismes s'en vont. Mais c'est vrai que dans les derniers stages qu'on a fait, il y a vraiment... plein de publics différents, voilà, des gens qui font du théâtre en amateur, des gens qui font des ateliers d'écriture, des musiciens, des gens qui font ni du théâtre en amateur, ni musiciens, ni ateliers d'écriture, qui sont juste des gens qui ont envie de s'essayer à ça. Et c'est vrai qu'en plus, il n'y a pas de... n'y a pas de groupe de niveau, il n'y a pas de ce genre de choses-là. Moi, je travaille vraiment avec ce qu'est la personne à ce moment-là. Donc, si en effet, c'est quelqu'un qui a beaucoup de pratiques de théâtre derrière elle, c'est évident que je vais être beaucoup plus exigeant sur certaines choses, puisque certaines choses qu'elle a déjà acquises. Si la personne, c'est la première fois qu'elle vient, qu'elle ose lire en public, enfin en tout cas devant le petit public du stage, c'est sûr qu'on va y aller plus tranquillement, puisque déjà là, cette démarche-là, donc le plus gros effet, grosso modo. Mm-hmm. Et après, tranquillement, on va comme ça arriver à la lecture et à travailler ensemble et à prendre ce plaisir-là d'entendre un texte et de le dire, surtout.
Mm-hmm. Oui, parce que quand même, au départ, ce sont des lecteurs qui viennent aussi pas mal à tes stages, j'ai l'impression, Erwan. Donc, des lecteurs qui lisent pas à voix haute, mais ce sont des gens qui aiment le texte, qui aiment ou la littérature, ou en tout cas lire. En tout cas, lire.
C'est peut-être en effet le dénominateur commun des gens qui viennent au stage. C'est-à-dire qu'il y a déjà, un rapport au texte.
Ouais, le goût du texte, ouais, le goût du texte.
Je vous remercie. Est-ce qu'il y a un site ou des coordonnées à donner, bien sûr?
Alors,
et puis,
pour
peut-être...
l'instant, il n'y a pas de site, mais c'est prévu. Normalement, à la fin de l'année, il va y avoir un site. Pour l'instant, il est en réflexion. Il n'est pas encore en construction, mais il est en réflexion. Par contre, pour toute demande d'information, de renseignement ou d'inscription aux diverses activités de la mobile compagnie, il y a déjà un mail auquel nous répondons très vite. C'est tout simplement la mobile compagnie, donc tout attaché en minuscule avec un E à mobile. Mm-hmm. Donc lamobilecompagnie@gmail.com.
Et là, on peut avoir des informations.
Et là, on répondra aux demandes sans aucun problème.
Voilà.
Je peux vous donner aussi également un numéro de téléphone.
C'est pratique.
Qui est le téléphone du siège de l'association. Donc, ça ne veut pas dire qu'il y a tout le temps quelqu'un. Mais si...
S'il n'y a personne, il y a un répondeur.
Bon. Et on rappelle très, très vite aussi, parce que même si on n'est pas là, parce qu'on est un peu à droite, à gauche pour nos activités, on écoute le répondeur tous les jours. Donc, c'est le 04 92 31 54 76.
04 92 31 54 76 pour vous contacter pour avoir plus d'informations sur la mobile compagnie. Merci Erwan Leroy et Sylvie Beaujard.
Merci à vous.
Merci.
Rendez-vous donc jeudi 21 mars à 19h à la salle des fêtes de Thouars. Merci.